Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
Salut Francis.
Salut Mario.
Il y avait en Suisse, il y a des banques régionales, locales, mais il y avait comme deux géants, là, deux banques d'échelle mondiale en Suisse, la UBS et Crédit Suisse. Et la plus grosse a acheté la deuxième, c'est-à-dire UBS a racheté Crédit Suisse, mais il me semble pour les Suisses, ça va être à peine imaginable. J'essaie de voir ici, c'est quasiment comme si la Royale achetait quoi, la Banque de Montréal ou la TD, ou... mais c'est...
La Banque nationale.
Non, mais c'est vraiment gigantesque, en fait. Puis, l'achète, le plus drôle, l'achète pour des peanuts, l'acheté pour quoi, $1 canadien, 4 milliards et demi. Je comprends que c'est beaucoup pour toi et moi, mais dans le monde bancaire, ils l'ont acheté pour du change, là, à 80 cents l'action.
Ouais, c'est effectivement un peu presque ridicule. Puis d'ailleurs, la classe politique suisse, là, Mario, là, je regardais ça, est pas particulièrement contente là, du dénouement de la situation. On a beaucoup parlé de Crédit Suisse la semaine dernière, qui a un peu fait face là à des pressions du marché, là, suite à notamment là, une intervention un peu malhabile de son principal investisseur, en fait, un de ses principaux investisseurs d'origine saoudienne, qui avait mentionné là, à mot couvert là, certaines inquiétude.
Mais là, ça a l'air qu'il a perdu, un milliard aujourd'hui, lui, là, le Saoudien.
Oui, ben c'est ça. Fait que il est bien puni là, de sa maladresse, mais grosso modo, là, depuis quelques temps, là, depuis un mois, là, l'action a perdu 70 % de sa valeur, là, dont à peu près 60 % la semaine dernière. Là, c'est vraiment la courbe chute là, vertigineusement. Et donc UBS met la main là, sur sa principale rivale au pays pour, comme tu le disais, 4 milliards de dollars, ce qui est littéralement là, du pocket change, si tu me permets l'expression, Mario. Évidemment, UBS, contrairement à Crédit Suisse, a eu une année extraordinaire l'année dernière. Juste l'année dernière, UBS a fait 7 milliards de dollars de francs suisses de profit. Donc, 9
donc il achète leur plus gros rival avec les profits de 6 mois. C'est vraiment une joke.
avec la moitié de son profit annuel. Donc, c'est vraiment une joke. Écoute, je te citerai pas, Mario, là, des décideurs suisse, là, mais il y en a qui parlent là, que c'est une honte et que c'est de l'amateurisme. Là, donc, c'est comme tu donnais la comparaison au Canada. Et au Canada, on a quand même 5-6 bandes financières. Mais là, il y en a très peu. Puis où Crédit Suisse faisait quand même partie des 30 plus grandes banques mondiales, ben, de voir l'une qui avale l'autre, encore une fois, pour une très petite véritable valeur, c'est un peu gênant. L'État était un peu mal pris, là, puis je pense que la transaction se fait, là, mais c'est certain que du point de vue de plusieurs consommateurs, autant des consommateurs comme toi et moi, les particuliers, que pour les entreprises, en Suisse, en tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle. Là, tu sais, c'est énormément de concentration entre les mains d'une seule institution, et donc ça va mener à quand même à une certaine un certain retirement peut-être là, de certaines conditions de crédit. Il y en a qui disent quand même que UBS, là, c'était pas non. Le deal est très bon, mais bon, il y a quand même des conséquences. Là. Crédit Suisse était en difficulté. Il y a tout un enjeu de justement de fusionner les activités de l'une et de l'autre. Donc, c'est pas non plus le walk in the park, là, mais il va y avoir assurément donc plusieurs retombées là, aux conséquences là, de ce mouvement assez majeur, mais, je te dirais, dans l'univers bancaire international.
Mais Francis, on avait pu penser, là, à tort ou à raison, la semaine passée, mais que le Crédit Suisse avait son avenir assuré. Parce que quand même, la Banque centrale de Suisse, probablement pour éviter cette transaction-là, la Banque centrale de Suisse avait avancé 54, en dollars américains, là, 54 milliards, une espèce de ligne de crédit là, pour garantir les activités de Crédit Suisse. Ça peut être encore assez?
Non, apparemment, non, effectivement. Puis d'ailleurs, là, ce qui a été étonnant, c'est que la promesse d'achat là, d'UBS là, sur les actions de Crédit Suisse, je comprends bien, autour de 80 cents de francs suisses. Puis l'action de Crédit Suisse a tombé en bas de cette valeur-là aujourd'hui. Puis l'action d'UBS également a chuté là, d'à peu près 7%. Donc, tu sais, il y a encore, là, comme je le disais, il y a encore un péril là, quelconque. Tellement solide qu'il n'y a pas de péril sur UBS, mais la transaction ne plaît pas au marché ni aux investisseurs qui ont décoté les deux institutions, malgré la fusion prévue et malgré, comme tu le soulignes, l'apport de capitaux propres de la part de l'État suisse. Là. Donc, encore une fois, là, une triste fin à cette histoire-là. Évidemment, on préfère ça à une chute de Crédit Suisse, comme on l'a vu pour certaines banques régionales américaines. Mais ce qui est particulier, c'est que Crédit Suisse, c'est pas une petite banque régionale, tu sais, c'est un monolithe mondial, tu sais, donc encore une fois, bien étrange dénouement. Tout ça.
La semaine passée, tu nous as parlé de Meta, la maison mère de Facebook, qui avait fait des coupures de personnel en novembre, mais qui vient d'en refaire. Même scénario chez Amazon.
Effectivement, puis encore une fois, tu sais, c'est toujours drôle de l'exprimer en proportion. Évidemment, Amazon, là, c'est un des plus grands employeurs du monde avec 1,5 million d'employés au total. On avait appris l'automne dernier qu'ils licenciaient 18 000 personnes, donc peut-être 1%, là, grosso modo, de leur force de travail. Ben, ils rajoutent aujourd'hui à ça 9 000 personnes, mais tu sais, si on l'exprime en pourcentage, ça semble être peu, mais on parle quand même au total de 27 000 personnes, Mario, qui vont perdre leur emploi ou qui l'ont déjà perdu chez Amazon. Ce qui est aussi particulier, Mario, c'est que j'avais l'impression, puis comme plusieurs, que les licenciements qui avaient lieu jusqu'ici, c'était dans des fonctions, disons, un peu périphériques, non essentielles et tout ça. Là, ce qu'on apprend, c'est que dans les 9000 personnes qui sont visées actuellement, il y a Amazon Web Services, qui est quand même la vache à lait d'Amazon. Donc, c'est
donc leur service de cloud, là, d'info nuagique?
De cloud. Effectivement, donc qui est un des leaders du marché là, mondial là, avec quelques joueurs dont Google et Microsoft. Donc c'est vraiment c'est le secteur profitable d'Amazon. Tu sais ce qu'on voit d'Amazon là, les vidéos puis les livraisons de colis, ils font de l'argent sur le très très gros volume. Mais Amazon Web Services là, le cloud c'est très très profitable par dollar de vente. Et donc de couper là-dedans, je trouve ça un peu risqué. On n'en avait pas parlé, Mario, mais Amazon avait aussi mis la main sur Twitch, qui est une plateforme de diffusion là en temps réel, là, donc un peu comme à la YouTube, si tu veux, mais vraiment destinée pour les créateurs, pour les gens de jeux vidéo, service de live streaming. Ben ils ont licencié également des gens dans ces équipes-là. Il y avait eu pas mal de personnes qui s'étaient plaintes là, que suite au rachat, les créateurs étaient moins bien traités, ils étaient moins bien rémunérés, là, alors que lors de l'achat, évidemment, on avait dit que rien ne changerait. Amazon a commencé un peu à squeezer le citron, puis là, aujourd'hui, on apprend qu'ils vont remercier des gens. Et finalement, ben évidemment, dans tout ça, ils vont remercier des gens aux ressources humaines également. Je ris, mais c'est parce qu'évidemment, dans ces conditions-là, je devine que les besoins en embauche puis en gestion là, des RH vont être moins grands. Donc, il y a plusieurs centaines de personnes des équipes ressources humaines d'Amazon qui vont perdre leur emploi. Ils n'ont pas précisé dans quel pays ça allait tout ça s'appliquer, mais on devine qu'il y a quand même une grande proportion d'Américains là, qui vont être au chômage suite à la décision d'Amazon, puisque c'est là où sont concentrées les activités là, des trois secteurs dont je viens de te parler.
Budget donc d'Éric Girard demain, premier de ce deuxième mandat de la CAQ. À quoi s'attendre dans cette période d'instabilité?
Écoute, je sais pas, je vais t'en reparler demain, Mario, mais bon, première chose, M. Girard a décidé de ne pas s'acheter de nouveaux souliers aujourd'hui. J'imagine que tu as vu ça. Là,
j'ai vu ça.
Au Québec, notamment. Il y avait...
On a failli demander Aldo, failli demander Aldo en entrevue pour avoir sa réaction.
Ça aurait été une très bonne idée. Mais donc, il a choisi d'encourager d'autres types d'activités. Donc, M. Girard là, s'est rendu dans la basse ville de Québec où il a remis un don, en fait, là, à même son budget discrétionnaire de 10 000 $ à un organisme qui s'occupe de pédiatrie sociale. Et ce qu'il dit, c'est qu'il souhaite instaurer une nouvelle tradition. Donc là, est-ce que c'est la fin des chaussures? Je serais bien intéressé d'entendre M. Aldo là-dessus. Mais donc, cette nouvelle tradition, ce serait de donner donc de l'argent la veille d'acheter et de donner. En tout cas, c'est ce qu'a dit M. Girard. Sinon, il a déjà dévoilé une clause du budget qui est un don de 50 millions de dollars, qui est quand même pas une petite somme pour un organisme, qui est la fondation du docteur Julien. Donc Julien là, qui arrive un peu à la fin de sa carrière, donc il reçoit une très très grosse somme au sein du budget. Sinon, encore une fois, M. Girard a pas confirmé si les baisses d'impôts annoncées lors de la campagne allaient se concrétiser lors du budget. Je parierais avec toi, Mario, qu'il va aller de l'avant avec ça.
Il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui me concerne.
Effectivement. Et puis sinon, pas mal d'autres éléments là, de stimulation fiscale, justement, pour faire face à la vie chère. À mots couverts, M. Girard semble dire que les résultats de l'économie jusqu'ici et sa boule de cristal lui indiquent que les choses vont mieux que ce à quoi il s'attendait. Et donc, il y a peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre que ce qui était prévu
dans la dernière
mise à jour en novembre.
Dans les prévisions économiques, là, t'sais, si on se reporte l'été ou t'sais, quand notre saison a commencé, là, au retour de l'été... T'sais, on disait, ouais, danger de récession en fin d'année ou au début 2023. On est là, on a presque un trimestre de passé en 2023. On est à quelques jours de la fin du trimestre. Et moi, en entrevue la semaine passée, vendredi, Éric Girard me disait, ben finalement, en fin d'année, il n'y a pas eu de récession. Puis dans le premier trimestre, c'est même meilleur qu'on pensait. Là. On est en légère croissance, mais en croissance. Et là, on est rendu à dire, ben là, la récession, s'il y en a une, elle pourrait être en deuxième moitié de 2024. Fait que je sais plus comment l'interpréter. Là. Est-ce que le risque de récession est reporté ou est-ce qu'on est juste en train de l'éviter et on veut pas se faire d'accroire? Est-ce qu'on est en train d'éviter le scénario de récession?
C'est ce qui semble se dessiner. Puis comme tu le dis, Mario, la fin d'année puis le premier trimestre, en soi, font partie des prévisions budgétaires du gouvernement. Ils ont été meilleurs que ce qui était anticipé. Puis ça, ça se traduit par plus de revenus pour l'État.
C'est
donc
ça.
Plus de marge de manœuvre pour le ministre des Finances. Et donc, c'est essentiellement ce qu'on va voir demain, je pense. Monsieur Girard, un petit peu de meilleure humeur qu'il l'aurait été en cas de récession. Et donc, probablement, comme on le dit, des baisses d'impôts, des cadeaux, là, comme à M. Julien, on va peut-être en voir quelques autres là, pour certains programmes. C'est certain que la santé, l'éducation, Mario, reste toujours et encore au cœur des préoccupations.
Puis en année de négociation, ces deux réseaux-là, de toute façon, il faut mettre de l'argent dans le pot pour les augmentations de salaire à venir, là.
Effectivement. Donc, c'est certain que tout ça sera présenté dans le budget là, demain. Puis, on aura l'occasion certainement d'en reparler à la chronique demain.
Absolument. Merci, Francis. À demain.
Bonne fin de journée.